Anatole France, comte de Jacques Tournebroche, Mademoiselle Roxane. Mon bon maître, monsieur l'abbé Jérôme Coignard, m'avait mené souper chez un de ses anciens condisciples qui logeait dans un grenier de la rue Gillecœur. Notre hôte, prémontré de grand talent et bon théologien, s'était brouillé avec le prieur de son couvent pour avoir fait un petit livre des malheurs de Mademoiselle Fanchon. Ensuite de quoi il était devenu cafetier à La Haye. De retour en France, il vivait péniblement des sermons qu'il composait avec beaucoup de doctrine et d'éloquence. Après le souper, il nous avait lu ses malheurs de Mademoiselle Fanchon, source des siens, et la lecture avait duré assez longtemps. Et je me trouvais dehors avec mon bon maître par une nuit d'été merveilleusement douce, qui me fit concevoir tout de suite la vérité des fables antiques qui se rapportent aux faiblesses de Diane, et sentir qu'il est naturel d'employer à l'amour les heures argentées et muettes. J'en fis l'observation à l'abbé Coignard, qui m'objecta que l'amour cause de grands maux. « Tournebroche, mon fils, me dit-il, ne venez-vous pas d'entendre de sa bouche de ce bon Brébontré que pour avoir aimé un sergent recruteur, un commis de M. Golot, mercier à la truite qui file, et M. le fils cadet du lieutenant criminel Lebrun, Mademoiselle Fanchon fut mise à l'hôpital. Voudriez-vous être ce sergent, ce commis ou ce cadet de robe ?» Je répondis que je le voudrais. Mon bon maître me sut gré de cet aveu et me récita quelques vers de Lucrèce pour me persuader que l'amour est contraire à la tranquillité d'une âme vraiment philosophique. Ainsi devisant, nous étions parvenus au rond-point du Pont-Neuf. Accoudés au parapet, nous regardâmes la grosse tour du Châtelet, noire sous la lune. « Il y aurait beaucoup à dire, soupira mon bon maître, sur cette justice des nations polies, dont les vengeances sont plus cruelles que le crime même. Je ne crois pas que ces tortures et que ces peines qu'infligent les hommes à des hommes soient nécessaires à la conservation des États, puisqu'on retranche de temps à autre quelqu'une de ces cruautés légales sans dommage pour la République. » Et je devine que les sévérités qu'on garde ne sont pas les plus unies, dit-il, que n'étaient celles qu'on a abandonnées. Mais les hommes sont cruels. Venez, Tournebroche, mon ami. Il m'est pénible de songer que ces malheureux veillent sous ces murs dans l'angoisse et le désespoir. L'idée de leur faute ne m'empêche pas de les plaindre. Qui de nous est juste ? Nous poursuivîmes notre chemin. Le pont était désert, à cela près qu'un mendiant et une mendiante s'y rencontrèrent. Ils se blottirent dans une des demi-lunes sur le seuil d'une échoppe. Ils semblaient assez contents, l'un et l'autre, de mêler leur misère. Et quand nous passâmes près d'eux, ils songeaient à toute autre chose qu'à implorer notre charité. Pourtant, mon bon maître, qui était le plus pitoyable des hommes, leur jeta un liard qui demeurait seul dans la poche de sa culotte. « Ils recueilleront notre bol, dit-il, quand ils auront repris le sentiment de leur détresse. Puissent-ils alors ne pas se disputer cette pièce avec trop de violence ?» Nous passâmes outre sans plus faire de rencontre quand, sur le quai des Oiseleurs, nous avisâmes une jeune demoiselle qui marchait avec une résolution singulière. Ayant hâté le pas pour l'observer de plus près, nous vîmes qu'elle avait une taille fine et des cheveux blonds dans lesquels se jouaient les clairs tartés de la lune. Elle était vêtue comme une bourgeoise de la ville. Oh, voilà une jolie fille, dit l'abbé. D'où vient qu'elle se trouve seule dehors à cette heure? En effet, dis-je, ce n'est pas ce qu'on rencontre d'ordinaire sur les ponts après le couvre-feu. Notre surprise se changea en une vive inquiétude quand nous la vîmes descendre sur la berge par un petit escalier fréquenté des mariniers. Nous courûmes à elle, mais elle ne parut point nous entendre. Elle s'arrêta au bord des eaux qui étaient assez hautes et dont le bruit sourd s'entendait à quelque distance. Elle demeura un moment immobile, la tête droite et les bras pendants, dans l'attitude du désespoir. Puis, inclinant son col gracieux, elle porta les mains à ses joues qu'elle tint cachées durant quelques secondes sous ses doigts. Et tout de suite après, brusquement, elle saisit ses jupes et les ramena en avant, du geste habituel à une femme qui va s'élancer. Mon bon maître et moi, nous la joignîmes au moment où elle prenait cet élan funeste et nous la tirâmes vivement en arrière. Elle se débattit dans nos bras, et comme la berge était toute grasse et glissante du limon déposé par les eaux, car la Seine commençait à décroître, il s'en fallut de peu que monsieur l'abbé Coignard ne fût entraîné dans sa prière rivière. J'y glissais moi-même, mais le bonheur voulut que mes pieds rencontrassent une racine qui me servit d'appui, pendant que je tenais embrassé le meilleur des maîtres et cette jeune désespérée. Bientôt, à bout de force et de courage, elle se laissa aller contre la poitrine de monsieur l'abbé Coignard. Elle nous mûmes remonter tous les trois à la berge. Il la soutenait délicatement avec cette grâce aisée qui ne le quittait pas. Et il la conduisit jusque sous un gros hêtre au pied duquel était un banc de bois où il l'assit. Il y prit place lui-même. Mademoiselle, lui dit-il, ne craignez rien. Ne dites rien encore, mais sachant qu'un ami est près de vous. Puis, se tournant vers moi, mon maître me dit: Pour le broche, mon fils, il faut nous réjouir d'avoir mené à bonne fin cette étrange aventure. Mais j'ai laissé là-bas sur la berge mon chapeau, qui, bien que dépouillé de presque tout son galon et fatigué par un long usage, ne laissait point de garantir encore du soleil et de la pluie ma tête offensée par l'âge et les travaux. Va voir, mon fils, s'il se trouve encore à l'endroit où il est tombé. Et si tu y découvres, rapporte-le-moi, je te prie, ainsi qu'une boucle de mes souliers que je vois que j'ai perdue. Pour moi, je resterai près de cette jeune demoiselle et je veillerai sur son repos. Je courus à l'endroit où nous venions et je fus assez heureux pour y retrouver le chapeau de mon grand maître. Quant à la boucle, je ne pus pas la découvrir. Il est vrai que je ne pris pas un extrême soin à la chercher, n'ayant vu de ma vie mon bon maître qu'avec une seule boucle de souliers. Quand je revins au hêtre, je trouvai la jeune demoiselle dans l'état où je l'avais laissée, assise, immobile, la tête appuyée contre l'arbre. Je m'aperçus qu'elle était parfaitement belle. Elle portait une mante de soie garnie de dentelle et fort propre, et elle était chaussée d'escarpins dont les boucles reflétaient les rayons de la lune. Je ne me lassais pas de la considérer. Soudain, elle ranima ses yeux mourants, et jetant sur monsieur Coignard et sur moi un regard encore voilé, elle dit d'une voix éteinte, mais d'un ton qui me sembla celui d'une personne de qualité: J'apprécie, messieurs, ce que vous avez fait pour moi dans un sentiment d'humanité, mais je ne puis pas vous en marquer mon contentement, car la vie à laquelle vous m'avez rendu est un mal haïssable et un cruel supplice. En entendant ces paroles, mon bon maître, dont le visage exprimait la compassion, sourit doucement, parce qu'il ne croyait pas que la vie fût à jamais haïssable pour une si jeune et jolie personne. Mon enfant, lui dit-il, les choses ne nous font point la même impression, selon qu'elles sont proches ou lointaines. Il n'est pas temps de vous désoler. Fait comme je suis, et dans l'état où m'a réduit le temps injurieux, je supporte la vie que j'ai pour plaisir de traduire du grec et de dîner quelquefois avec d'assez honnêtes gens. Regardez-moi, mademoiselle, et dites-moi si vous consentiriez à vivre dans les mêmes conditions que moi. Elle le regarda, ses yeux s'égayèrent presque, et elle secoua la tête. Puis, reprenant sa tristesse et sa désolation, elle dit « Il n'y a pas au monde une créature aussi malheureuse que je suis. »« Mademoiselle, répondit mon bon maître, je suis discret par état et par tempérament. Je ne chercherai point à vous tirer votre secret, mais on voit clairement à votre mine que vous souffrez d'une peine d'amour. C'est un mal dont on réchappe, car j'en ai été moi-même atteint, il y a de cela fort longtemps. » Il lui prit la main, lui donna 1000 témoignages de sympathie, et poursuivit en ces termes. « Ben, je n'ai qu'un regret à cette heure, c'est de ne pouvoir vous offrir un asile pour passer le reste de la nuit. Mon gîte est dans un vieux château assez distant, où je traduis un livre grec en compagnie de ce jeune tournebroche que vous voyez ici. En effet, nous habitions alors chez M. d'Astarac au château des Sablons, dans le village de Neuilly, et nous étions au gage d'un grand souffleur qui périt depuis d'une mort tragique. Si toutefois, mademoiselle, ajouta mon bon maître, vous saviez quelques lieux où vous pensiez pouvoir vous rendre, je serais heureux de vous y accompagner. » À quoi la jeune demoiselle répondit qu'elle était sensible à tant de bonté et qu'elle logeait chez une parente où elle était assurée d'entrer à toute heure, mais qu'elle n'y voulait point retourner avant le jour, tant pour n'y point troubler le sommeil des gens que par crainte d'être trop vivement rappelée à la douleur par la vue des objets qui lui étaient familiers. Et en prononçant ces paroles, elle versa des larmes abondantes. Mon bon maître lui dit « Mademoiselle, donnez-moi, s'il vous plaît, votre mouchoir, et je vous en essuierai les yeux. Puis je vous conduirai en attendant le jour sous les piliers des halles où nous serons aussi commodément à l'abri du serein. » La jeune demoiselle sourit dans ses larmes. « Oh, je ne veux point, dit-elle, vous donner tant de peine. » « Allez votre chemin, monsieur, et croyez que vous emportez toute ma reconnaissance. » Pourtant, elle posa la main sur le bras que lui tendait mon bon maître, et nous prîmes tout droit le chemin des Halles. La nuit s'était beaucoup rafraîchie. Dans le ciel qui commençait à prendre une teinte laiteuse, les étoiles devenaient plus pâles et plus légères. Nous entendions les premières voitures des maraîchers rouler vers les Halles au pas lent d'un cheval endormi. Parvenus aux piliers, nous prîmes place tous trois dans l'embrasure d'un porche à l'image Saint-Nicolas, sur un degré de pierre que M. l'abbé Coignard prit soin de recouvrir de son manteau avant d'y faire asseoir la jeune demoiselle. Là, mon bon maître tint sur divers sujets des propos plaisants et joyeux, à dessein, afin d'écarter les images funestes qui pouvaient assaillir l'âme de notre compagne. Il lui dit qu'il tenait cette rencontre pour la plus précieuse qu'il eût jamais faite dans sa vie, qu'il emporterait d'une si touchante personne un cher souvenir, sans vouloir lui demander son nom et son histoire. Mon bon maître pensait peut-être que l'inconnu dirait ce qu'il ne lui demandait pas. Elle versa de nouveau des larmes, poussa de grands soupirs et dit « J'aurais tort, monsieur, de répondre par le silence à votre bonté. Je ne crains pas de me confier à vous. Je me nomme Sophie T. Vous l'avez deviné, oui, c'est la trahison d'un amant trop chéri qui m'a réduit au désespoir. Si vous jugez que ma douleur est démesurée, c'est que vous ne savez point jusqu'où allaient ma confiance et mon aveuglement, et que vous ignorez à quel rêve enchanteur je viens d'être arraché. Puis, levant ses beaux yeux sur M. Coignard et sur moi, elle poursuivit de la sorte. Mais on ne suis pas tel, messieurs, que cette rencontre nocturne pourrait me faire paraître à vos yeux. Mon père était marchand. Il alla pour son négoce à l'Amérique, et il périt à son retour dans un naufrage avec ses marchandises. Ma mère fut si touchée de cette perte qu'elle en mourut de langueur, me laissant encore enfant à une tante qui prit soin de m'élever. Je fus sage jusqu'au moment où je rencontrai celui dont l'amour devait me causer des joies inexprimables, suivi de ce désespoir où vous me voyez plongé. À ces mots, Sophie cacha ses yeux dans son mouchoir. Puis elle reprit en soupirant. Son état dans le monde était si fort au-dessus du mien que je ne pouvais prétendre à lui appartenir qu'en secret. Je me flattais qu'il me serait fidèle. Il me disait qu'il m'aimait et il me persuadait sans peine. Ma tante connut nos sentiments et ne les contraria pas, parce que son amitié pour moi la rendait faible et que la qualité de mon cher amant lui imposait. Je vécus un an dans une félicité qui vient de finir en un moment. Ce matin, il est venu me demander chez ma tante où j'habite. J'étais hanté de noirs pressentiments. Je venais de briser en me coiffant un miroir dont il m'avait fait présent. Sa vue augmenta mon inquiétude par l'air de contrainte que je remarquai tout de suite sur son visage. Oh, monsieur, est-il un sort pareil au mien? Ses yeux se gonflaient de larmes qu'elle renfonça sous ses paupières, et elle put achever son récit, que mon bon maître jugeait aussi touchant, mais non point aussi singulier qu'elle le croyait elle-même. Il m'annonça froidement, mais non sans quelque embarras, que son père, ayant acheté une compagnie, il partait pour l'année, mais qu'auparavant, sa famille exigeait qu'il se fiançât avec la fille d'un intendant des finances, dont l'alliance était utile à sa fortune et lui procurait assez de biens pour tenir son rang et faire figure dans le monde. Et le traître, sans daigner voir ma pâleur, ajouta de cette voix si douce qui m'avait fait mille serments d'amour, que ses nouveaux engagements ne lui permettaient plus de me revoir, du moins de quelque temps. Il me dit encore qu'il me gardait de l'amitié et qu'il me priait de recevoir une somme d'argent en souvenir du temps que nous avions passé ensemble, et il me tendit une bourse. Je ne mens point, messieurs, en vous disant que je n'avais jamais voulu écouter les offres qu'il m'avait maintes fois faites de me donner des hardes, des meubles, de la faisselle, un état de maison, et de me retirer de chez ma tante où je vivais fort étroitement, pour me mettre dans un petit hôtel fort propre qu'il avait au roule. J'estimais que nous devions être unis que par les biens du sentiment, et j'étais fier de n'obtenir de lui que quelques bijoux qu'il m'avait pris de leur origine. Aussi la vue de cette bourse qu'il me tendait souleva mon indignation et me donna la force de chasser de ma présence l'imposteur qu'un seul instant m'avait mis à même de connaître, de mépriser. Il soutint sans trouble mon regard indigné et m'assura le plus tranquillement du monde que je n'entendais rien aux obligations qui remplissent l'existence d'un homme de qualité. Et il ajouta qu'il espérait que plus tard, dans le calme, j'en viendrais à mieux juger ses procédés. Et remettant la bourse dans sa poche, il m'assura qu'il saurait bien m'en faire parvenir le contenu de manière à me rendre le refus impossible. Et sur cette idée intolérable qu'il entendait être quitte envers moi par ce moyen, il prit la porte que je lui montrais sans rien dire. Demeuré seul, je me sentis une tranquillité qui me surprit moi-même. Elle venait de ce que j'étais résolu à mourir. Je m'habillai avec quelques soins, j'écrivis une lettre à ma tante pour lui demander pardon de la peine que j'allais lui faire en mourant, et je sortis dans la ville. J'y errai tout l'après-midi et une partie de la nuit, traversant les rues animées ou désertes sans éprouver de fatigue et retardant l'exécution de mon dessein pour la rendre plus sûre à la faveur de l'ombre et de la solitude. Peut-être aussi, par une sorte de faiblesse, me plaisait-il de caresser l'idée de ma mort et de goûter la triste joie de ma délivrance. À 2 heures du matin, je descendis sur la berge de la rivière. « Eh, messieurs, vous savez le reste. Vous m'avez arraché à la mort. Je vous remercie de votre bonté, sans me réjouir de ses effets. Les filles abandonnées, cela court le monde. Je désirais qu'il ne s'en trouvât point une de plus. » Ayant ainsi parlé, Sophie se tut et recommença de verser des larmes. Mon bon maître lui prit la main avec une extrême délicatesse. « Mon enfant, lui dit-il, j'ai pris un tendre intérêt au récit de votre histoire. Et je conviens qu'elle est douloureuse. Mais je suis heureux de discerner que votre mal est guérissable. Outre que votre amant ne méritait guère les bontés que vous avez eues pour lui, et qu'il s'est montré à l'épreuve léger, égoïste et brutal, je distingue que votre amour pour lui n'était qu'un penchant naturel et l'effet de votre insensibilité, dont l'objet importait moins que vous ne vous le figurez. Ce qu'il y avait de rare et d'excellent dans cet amour venait de vous. Et rien n'est perdu, puisque la source demeure. Vos yeux, qui ont coloré des nuances les plus belles, une figure sans doute fort vulgaire, ne laisseront pas de répandre encore ailleurs les rayons de l'illusion charmante. Mon bon maître parla encore et laissa couler de ses lèvres les plus belles paroles du monde, sur les troubles des sens et les erreurs des amants. Mais, tandis qu'il parlait, Sophie, qui, depuis quelques instants, avait laissé fléchir sa jolie tête sur l'épaule du meilleur des hommes, s'endormit doucement. Quand M. l'abbé Coignard s'aperçut que la jeune demoiselle était plongée dans le sommeil, il se félicita d'avoir tenu un langage propre à communiquer à une âme souffrante le repos et la paix. « Il faut convenir, dit-il, que mes discours ont une propriété bienfaisante. » Pour ne pas troubler le sommeil de mademoiselle Sophie, il prit 1000 précautions et se contraignit à parler couramment dans la crainte raisonnable que le silence ne l'éveillât. « Tourne gauche, mon fils, me dit-il. » Toutes ces misères sont évanouies avec la conscience qu'elle en avait. Considérez qu'elles étaient toutes imaginaires et situées dans sa pensée.